Chapitre 4. Des gens de théâtre qui avaient, ou qui avaient eu des relations avec Zite, un seul trouvait grâce devant la mauvaise humeur de Gaston, c'était Joseph. Le jour du mariage, Joseph était venu à l'église, mais il n'était point entré à la sacristie, et Gaston n'avait pas eu l'ennui de serrer la main d'un homme qui avait été l'amoureux, l'amoureux passionné de sa femme, au su et vu de tout le monde. Depuis, quand par hasard, Joseph avait rencontré Zite et Gaston, il avait feint de ne pas les voir. Il est vrai que Joseph n'avait pas la même réserve lorsque Zite était seule et qu'alors, s'il la rencontrait, non seulement il la voyait, mais encore il l'abordait et l'entretenait. Ce n'était que quelques mots, cependant, si Gaston les avait entendus, leur accent, bien plus que ce qu'il disait, lui eût donné d'autres idées sur Joseph. Il est vrai aussi que Joseph venait au Théâtre-Français toutes les fois qu'il avait une soirée de libre et que, pendant les 3 mois d'été, alors que son théâtre était fermé, il manquait rarement les représentations de Zite. Mais Gaston ignorait cette assiduité de Joseph dans un théâtre où un comédien des folies et des nouveautés n'avait que faire, pas plus qu'il n'entendait l'accent avec lequel cet ancien amoureux parlait à sa femme. Tout ce qu'il savait de lui, c'était ce qu'il en lisait dans les journaux de théâtre, et cela était à ses yeux sans intérêt. Que lui importait que Joseph se fût fait une réputation au boulevard, Joseph ne comptait pas pour lui, et s'il remarquait son nom, c'était parce qu'il avait le souvenir de ce que la pharmacienne de Noisy lui avait raconté autrefois, rien de plus. Jamais il n'avait parlé de Joseph avec sa femme, et jamais sa femme ne lui avait parlé de Joseph. Il semblait qu'il n'existât pas plus pour l'un que pour l'autre. Au moins, celui-là ne se réunissait-il pas aux autres comédiens pour exaspérer Gaston. Son souvenir même lui était indifférent. Mais pour ne point parler de son ancien camarade, Zite ne l'avait pas oublié. La séparation n'avait affaibli en rien son amitié pour lui. Comment n'être point touché de sa discrétion ? Qui prouvait mieux combien il l'avait aimée que la délicatesse de sa conduite avec elle ? Sans doute, elle eût voulu qu'il fût moins ému quand il l'abordait, et elle eût voulu aussi qu'il fût moins assidu à la venir voir jouer, mais pouvait-elle lui en vouloir de cette fidélité au souvenir, alors surtout qu'elle s'exprimait avec cette réserve « le pauvre garçon, le brave garçon ». Sans jamais questionner personne à son sujet, ni son frère, ni la chapelle, ni même Marietta, elle l'avait suivi depuis leur séparation et, par les journaux, elle l'avait vu grandir. Entré comme doublure aux Folies Dramatiques, il n'avait pas tardé à devenir chef d'emploi et maintenant, il faisait recette. On le copiait. Il y avait en province des acteurs qui jouaient les Joseph, un type nouveau dans l'opérette qu'il avait créé, celui des amoureux comiques. La critique s'occupait de lui, le discutait et, le plus souvent, le couvrait de fleurs. Ses appointements étaient supérieurs à la part que Zite touchait comme sociétaire. Si réservé qu'il fût avec elle, il y avait un point cependant sur lequel il lui avait adressé une demande bien embarrassante pour elle. Comme beaucoup de comédiens à qui l'éclat et la puanteur du gaz donnent le besoin de voir de la verdure et de respirer un air moins étouffant que celui des théâtres, Joseph habitait la campagne et malgré l'éloignement de Paris, c'était la Varenne qu'il avait adoptée. Aux environs du pont de Chenevière, il avait acheté une petite île et, au milieu des grands arbres, il s'était fait construire sur des piliers en maçonnerie, assez élevés et assez solides pour n'avoir rien à craindre des inondations, une petite maison en bois qui prêtait à rire aux bourgeois, mais qui faisait la fierté de son propriétaire. Que de journées de travail, que de temps, que de peine, que de plaisir n'avait-il pas donné à sa maison, qui, pour la menuiserie intérieure, était en grande partie l'ouvrage de ses mains. Comme dans ses rencontres avec Zite, il y avait toujours un moment d'embarras où les mots ne venaient pas facilement, il avait pris l'habitude de parler alors de sa maison, de son jardin, de ses bêtes. Et quand la construction avait été habitable, il lui avait demandé si elle ne viendrait pas le voir, en riant et sans attacher d'importance à ses paroles. Elle avait répondu que ce serait avec plaisir, et elle n'y avait plus pensé. mais Joseph n'oubliait pas ce qu'on lui disait, surtout ce que Zite lui disait, et il était revenu à la charge. « Tu ne veux donc pas venir à la Varenne ? Je serais si heureux de te montrer ma maison. Tu en serais la marraine. Comme elle ressemble un peu à un bateau, c'est tout naturel qu'on la baptise. La Varenne n'est qu'à une demi-heure de Paris. Ce n'est pas un voyage. Ce serait une promenade pour ta fille, qui est assez petite pour ne rien dire. » Zite avait alors compris que la promesse était imprudente, mais comment revenir dessus sans le peiner ? Elle en avait remis l'exécution sans se dégager. « Je n'ai pas le temps en ce moment, quand une occasion se présentera. Elle se présentera quand tu le voudras bien. » Elle eut d'abord répondu que cette visite était impossible, qu'il lui eût été facile de persister dans son refus, mais comment reprendre son consentement ? Il tenait tant à ce baptême. « Je ne te demande pas de venir tous les ans, une fois seulement, pour toute la vie. » Elle avait ajouté les retards aux retards, les prétextes aux prétextes, mais toujours plus difficilement, plus péniblement, en voyant combien il s'en chagrinait. On était ainsi arrivé à l'automne. Un jour, en venant à sa répétition, Zite trouva Joseph qui paraissait collé à la vitrine de chevet, mais qui, évidemment, la guettait. Après les premières paroles, comme toujours, l'entretien tourna à la Varenne. « J'ai vu dans la vie en plein air du Figaro que ton mari était à la chasse chez M. Bachelet. Ne viendras-tu pas à la Varenne ? Tu es libre et je le suis aussi. Je joue tous les soirs. » Du doigt, il lui montra l'affiche au bas de laquelle était annoncé le spectacle du lendemain. « Tu ne joues pas demain. Je répète. » Fais-toi remplacer par une pensionnaire à qui tu laisseras jouer ton rôle une fois et tu feras deux heureux, elle et moi. » Elle hésita un moment, mais elle n'eut pas le courage de résister au regard voilé qui l'attachait sur elle. « Eh bien, à demain, » dit-elle. « Si tu prends le train de 5 heures, tu arriveras à 5 heures et demie, je serai au-devant de toi à la gare. » Zite était mécontente de ce consentement arraché à sa faiblesse, mais comment le refuser ? En somme, rien n'était plus innocent que cette visite. En sortant de sa répétition, on lui annonça que, par suite d'une indisposition, le spectacle du lendemain serait changé, elle jouerait ce jour-là et non le surlendemain. Devait-elle profiter de cet incident pour ne pas aller à la Varenne ? Elle en eut la pensée, mais après réflexion, elle trouva que cela ne serait pas délicat. Rentrée chez elle, elle écrivit à Joseph pour le prévenir. « Ne compte pas sur moi demain, mon cher Joseph. Un changement de spectacle qu'on vient de m'annoncer me retiendra à Paris. Mais après-demain, je m'échapperai et je serai tout à toi de 5h30 à 9h. Est-ce assez ? Zite. » Sa lettre écrite, elle l'envoya à la poste par sa bonne, mais celle-ci, au lieu de descendre aussitôt, la copia comme elle le faisait toujours, et ce fut 2 lettres qu'elle mit dans la boîte, l'une pour Joseph, l'autre copie pour l'agence de la rue du Helder. Ella était trop grande maintenant pour qu'on pût l'emmener sans qu'elle racontât où elle avait été et ce qu'elle avait vu. Aussi l'intention de Zite n'était-elle pas de la prendre avec elle pour aller à la Varenne. Elle la laisserait à la garde de sa mère, à Montmartre, où elle viendrait la chercher le soir, et comme l'enfant se plaisait chez sa grand-maman, où elle avait un jardinet pour jouer, il n'y avait pas à craindre qu'elle s'ennuyât. Zite n'avait pas de raison pour ne pas dire à sa mère qu'elle allait chez Joseph, mais sans cacher que son consentement lui avait été, en quelque sorte, arraché. Puis elle demanda à son père de l'accompagner. Malheureusement, du Châtelier avait un travail pressé pour son romancier qui, à son grand regret, l'empêcha d'accepter. « J'aurais aimé à faire cette partie avec toi. Tu n'as jamais été plus jolie. » Il fallait vraiment que du Châtelier eût des raisons bien fortes de rester à la maison pour se priver de la gloire de se montrer dans Montmartre avec cette jolie femme à son bras, sa fille, comme il le disait, n'avait jamais été plus jolie, tout en beauté dans sa robe de foulard écrue qui lui donnait une légèreté de jeune fille. Évidemment, elle forcerait les regards à la suivre. Quand elle descendit de wagon à la Varenne, elle trouva Joseph qui l'attendait à la sortie, un Joseph qu'elle n'avait jamais vu, chaussé de grandes bottes de cuir de Russie, avec des boucles d'argent au cou de pied et aux genoux, coiffé d'un chapeau mani à large bord, et, avec cela, une chemise plissée sans emploi, nouée au cou par deux cordons. Par-dessus, un jersey indigo serré à la taille par une ceinture de laine rouge. « Comme tu as de belles bottes !» dit-elle en lui prenant le bras. « C'est pour aller en bateau. Il y a de l'eau dans ton bateau ? Peux-tu croire ?» Si, au lieu d'admirer les bottes de Joseph et de plaisanter, elle avait regardé autour d'elle, elle aurait vu qu'un monsieur à la tournure militaire, décoré, qui avait emboîté le pas derrière elle à la gare de la Bastille et qui était monté dans la caisse voisine de la sienne, la désignait du doigt en parlant à plusieurs personnes. À tous, la question était la même. C'est bien Joseph des Folies Dramatiques, n'est-ce pas ? Et la femme, est-ce que ce n'était pas du Châtelier des Français ? La question était faite si poliment qu'on ne pouvait pas s'en fâcher. Quelques personnes ainsi interrogées avaient répondu que c'était bien Joseph, mais qu'elles ne connaissaient pas du Châtelier. Deux, cependant, avaient donné une réponse complètement affirmative. Et, aussitôt, le monsieur décoré avait demandé à un employé de la gare le nom de ces personnes. L'une était un médecin, l'autre un propriétaire. Zit et Joseph avaient continué leur chemin en causant amicalement jusqu'au pont. Là, ils descendirent sur la rivière et, au ponton d'un loueur de bateau, ils s'embarquèrent dans un beau canot en acajou qui, à l'arrière, portait flottant un grand drapeau marqué d'un Z. « J'ai pavoisé en ton honneur, » dit Joseph en prenant les avirons. Pendant qu'il remontait le courant, le monsieur décoré adressait sa question au loueur de bateau. « C'est bien Joseph et Mademoiselle du Châtelier, n'est-ce pas ?» Mais le loueur le reçut mal. « Me prenez-vous pour un mouchard ? Je ne mange pas de ce pain-là, vous savez. Si vous ne voulez pas prendre un bain tout habillé, il faut sortir d'ici. » Le monsieur ne se le fit pas dire deux fois. Il remonta sur le quai et, de loin, en promeneur qui va à l'aventure, il suivit le bateau qui portait Zit et Joseph. Assise à l'arrière, Zit regardait autour d'elle. Le temps avait été lourd toute la journée, plus chaud qu'il ne l'est ordinairement en cette saison, et, après avoir étouffé dans le wagon, après avoir marché depuis la gare jusqu'au pont, dans la poussière de la rue brûlante, il était bon pour les poumons de respirer la fraîcheur des eaux et pour les yeux de se reposer dans la verdure de leur rive. Déjà, le calme du soir se faisait sur la rivière abandonnée par les pêcheurs ainsi que par les canotiers et, au-delà de Paris, dans un ciel orangé chargé de gros nuages immobiles, le soleil couchant s'abaissait. « Où donc est ta maison ?» demanda Zit. « Dans l'île, à l'avant de notre bateau. Au milieu des arbres, ne la vois-tu pas ? » répondit Joseph, qui, en ramant, tournait le dos au point vers lequel il se dirigeait. Jusque-là, Zit n'avait vu qu'une petite île plantée de grands arbres qui, attirés par le vide de la rivière, avaient incliné leur haute tige sur son cours comme une énorme gerbe de verdure retombante. L'indication de Joseph lui fit apercevoir au centre de cette gerbe un toit rouge. Comme il allait aborder à un escalier creusé dans la berge, elle lui demanda de continuer. « Ne peut-on pas faire le tour de ta robinsonnerie ? » dit-elle. « C'est facile. Quand tu aborderas, tu verras que tu dis juste en appelant mon île une robinsonnerie, car j'y vis tout seul avec un chien, des chats et des poules. » Un mot lui vint aux lèvres. « Tu peux être heureux là ? » Mais la réflexion lui permit de la retenir à temps. Lentement, ils tournèrent autour de l'île sous la voûte verte de ses arbres. Sur la berge, derrière une haie épaisse et une solide palissade, un chien les accompagnait avec des abois joyeux. « C'est Bélisère, » dit Joseph. « Ah, tu l'as appelé Bélisère ?»« Comme le vieux cheval, mais il n'est pas plus aveugle que vieux, et il ferait un mauvais parti à ceux qui voudraient entrer dans mon île. » Ils étaient revenus à l'escalier. Ils débarquèrent, et Joseph demanda à Zit de caresser le chien pour faire amitié. du débarcadère, une allée bien sablée de gravier de rivière conduisait, entre des touffes d'arbustes et d'acères fleuris, à la maison posée sur des piliers. Elle n'avait qu'un étage, couvert en tuiles. Ses murs étaient en sapin de couleur naturelle, avec des volets verts, et on y accédait par un escalier droit. « Voilà qui est original !» s'écria Zit. « On dirait une grande roulotte qui ne roule pas. »« Ah, cela te rappelle la roulotte, j'en suis bien content. Tu vois que j'avais raison de te demander de venir, ton premier mot l'a baptisé, la roulotte. »« Et l'intérieur ?» C'est aussi une roulotte. Montons. Au haut de l'escalier, Joseph ouvrit une porte massive et ils se trouvèrent dans une pièce qui était à la fois vestibule et salle à manger. Les murs et le plafond étaient comme le dehors, revêtus de bois naturel, mais plus finement travaillés. Au milieu se dressait d'une table, avec son couvert mis sur une nappe en linge damassé. L'argenterie brillait de l'éclat du neuf. Deux bouquets de roseté s'épanouissaient à chaque bout. « Tu as invité quelqu'un ?» demanda Zit en remarquant trois couverts. « Le troisième couvert était pour ta fille. » Elle ne dit point pourquoi elle n'avait pas amené Ella, et elle ne parla pas non plus de l'idée qu'elle avait eue de se faire accompagner par son père. « Veux-tu voir ma maison » dit-il. Elle le suivit dans les trois pièces dont elle se composait, en plus de la salle à manger, deux chambres et une cuisine. « Et tu vis là toujours ?» dit-elle sans trop réfléchir à ce qu'elle disait. « Aussi heureux que je puis être heureux. » Puis, tout de suite, avec une volubilité voulue, pour ne pas rester sur ses derniers mots, il expliqua en détail comment il vivait. Été comme hiver, il rentrait dans son île après le théâtre. Quand les eaux étaient hautes, il avait moins de marches à monter, voilà tout. Une femme du pays venait faire son ménage le matin et lui préparait ses repas. Toujours il mangeait un dîner froid entre son chien, ses chats et son perroquet. C'était un de ces dîners qu'il avait à offrir à Zit, car il n'avait voulu personne autour d'eux. Une tranche de saumon, un poulet rôti, une salade de légumes et des écrevisses. Les deux chats, sentant que l'heure solennelle approchait, avaient monté l'escalier et ils se tenaient campés sur leur derrière, devant la table que Bélisaire défendait contre un assaut possible. Sur son perchoir, le perroquet qui guignait des fruits criait « À table ! À table ! À table !» Joseph, ayant fait asseoir Zit, s'assit lui-même en face d'elle et la servit. Une lumière orangée restée au ciel les éclairait et permettait de ne pas allumer encore les bougies. Par la porte grande ouverte, leurs regards plongeaient sur la rivière, dont les eaux reflétaient les lueurs qui tombaient sur leur miroir mouvant. La nuit arriva vite, au loin on entendait les roulements du tonnerre. Il fallut allumer, puis il fallut fermer la porte, car le vent s'éleva, soufflant en bourrasque dans les arbres qui craquaient. « Sois tranquille, dit Joseph, la maison est solide. » Mais Zit n'avait pas peur, elle en avait vu bien d'autres dans sa vie sur les grands chemins. Cependant, l'orage se rapprochait, les roulements du tonnerre se faisaient plus forts, plus prolongés, et à chaque instant, les éclairs emplissaient la salle de leurs vagues bleues, noyant la lumière jaune des bougies. « Tout ce que je souhaite, dit Zit, c'est que l'orage passe vite. » « Ne t'inquiète pas, il y a des trains jusqu'à 11 heures. Si tu ne prends pas l'un, tu prendras l'autre. » La pluie commença à tomber et l'orage parut s'éloigner. Ils purent continuer leur dîner tranquillement en parlant du passé. Que de souvenirs leur revenaient qu'ils avaient autant de plaisir l'un que l'autre à évoquer. C'étaient les années de jeunesse de Zit, les années d'amour de Joseph qui défilaient jour après jour. Le temps passa sans qu'ils eussent conscience de sa durée. Le dîner s'acheva, malgré Joseph qui eût voulu que Zit mangeât tout ce qui était servi sur la table, le fromage à la crème, les pêches, les fraises, les poires. N'en pouvant plus, elle se leva et alla à la fenêtre. La pluie tombait toujours à torrents. On l'entendait s'abattre en nappe sur le toit et fouetter les vitres. « Tu prendras le train de 10 heures, » dit Joseph, heureux de la garder plus longtemps. Elle fit le tour de la salle et s'arrêta devant un grand cadre qui, sous son verre, enfermait des découpures de journaux. « Qu'est-ce que c'est que ça ? » demanda-t-elle. « Un choix de quelques articles publiés sur moi qu'un ami m'a offert. « Apporte une bougie. » Pendant qu'il l'éclairait, elle se mit à lire. « Tu vois, dit-il, j'ai souligné les bons passages pour les relire de temps en temps et m'habituer à y croire. Ça soutient. Tu n'as pas besoin de ça. Mais si, il me semble que quand on n'a pas été toujours heureux, il n'est pas facile de croire au succès, au sien. Et je n'ai pas été toujours heureux. Quand je pense au temps où j'ai tendu la main sur le pont de pierre à Rouen, je crois que ce qui m'arrive maintenant est un rêve. Tu as tendu la main ? À cette heure, je peux bien le dire, je n'en suis plus honteux. Je crois même que j'en suis fier. Si tu veux que je te conte ça, la pluie cessera pendant ce temps-là. »